Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes le vendredi 18 septembre. Il est exactement 8h.
8h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Bernard Poirette.
Et voici les titres du journal de Lucille Bréau. Israël reconfine dans la colère. C'est le premier pays au monde à le faire en totalité. C'est une décision doublement mal vécue là-bas, juste avant les fêtes juives. Nous serons à Jérusalem dans quelques minutes. En France, plus question de fermer une classe au premier cas de Covid-19. Le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles et dans les crèches. Ça inquiète beaucoup les parents d'élèves, vous l'entendrez. Et puis, une femme à la baguette, l'image est encore trop rare sur scène. Le concours Maestra met à l'honneur les chefs d'orchestre féminins et Radio Classique, bien sûr, s'y associe.
Radio Classique.
Mais d'abord, Lucille, partons sans aucun mauvais jeu de mots. Ensemble, en forêt, ce matin, au chevet de nos arbres, les arbres sont en train de mourir.
Des chênes, des châtaigniers qui dépérissent à cause de la sécheresse et du réchauffement climatique. Le phénomène est absolument inédit. Baptiste Gabory, bonjour.
Bonjour, Lucille.
Le monsieur environnement de Radio Classique, vous étiez en forêt de Montmorency hier dans le Val d'Oise, en région parisienne. Un quart des arbres sont morts.
500 hectares de châtaigniers, des parcelles entières rasées autour des arbres blancs desséchés. Claire Novak est la responsable forêt Île-de-France à l'Office national des forêts.
C'est radical, c'est en l'espace de quelques mois, parfois quelques semaines, un phénomène de mort de l'arbre où vous voyez, année après année, la surface d'arbres morts est de plus en plus grande.
Des châtaigniers victimes de la maladie de l'encre, un pathogène devenu destructeur avec le changement climatique.
Cette maladie a pu proliférer à la faveur d'hivers qui sont devenus très doux. Et ces micro-organismes grignotaient les racines des châtaigniers, ce qui fait que en arrivant dans les mois d'été, le châtaignier qui avait besoin de faire face à cette sécheresse s'est retrouvé démuni puisque les racines, il n'en a plus.
L'ONF estime désormais qu'entre 10 et 15 000 hectares de forêts domaniales en France vont devoir être rasés ces deux prochaines années. Bertrand Munch, directeur général de l'ONF.
Ici, c'est le châtaignier, ailleurs, c'est le frêne. Il y a l'épicéa, bien sûr. De mémoire de forestier, on n'a pas connu ça. On a connu des tempêtes, on a connu des arbres qui ont disparu, l'orme, mais on n'a pas connu ça dans ces dernières générations.
Et à Montmorency, comme ailleurs, l'ONF replante des espèces différentes pour tenter de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques.
Merci Baptiste Gabory, nos forêts donc qui se meurent et le coronavirus, lui, qui continue de dominer l'actualité mondiale.
Mais un pays, notamment, est à la une ce matin. C'est le premier au monde à se reconfiner en totalité. Israël se barricade à nouveau.
Pour 3 semaines au moins, à la veille des fêtes juives, le pays était pourtant présenté comme un exemple lors de la première vague, mais le nombre de cas explose désormais là-bas. Alors à partir de 14h, les Israéliens n'auront plus le droit de s'éloigner à plus de 500 mètres de leur domicile. Un reconfinement très mal vécu sur place. La correspondance à Jérusalem d'Alice Froussard pour Radio Classique.
Le calme est saisissant, l'ambiance morose. Il y a des masques sur presque tous les étalages. Younes Hassan Abdelatif vend des vêtements près de la porte de Damas et son chiffre d'affaires a déjà baissé de 30%.
I am very angry.
Je suis très énervé. Si je ferme, où est-ce que je trouve de l'argent? Je ne travaille pas avec les touristes, mais même les locaux n'achètent plus.
Mais le nombre de cas explose, le personnel de santé frôle l'épuisement. Cette mesure est nécessaire, estime Bilal Abou Khalaf, marchand de tissus.
Certaines personnes meurent du coronavirus, donc 3 semaines, peut-être que c'est pour en finir avec ce virus à Jérusalem.
Sur la vitrine de certaines boutiques, la photo de Benjamin Netanyahou est en légende fermée à cause de lui. Pour les restaurateurs et leur personnel, ce confinement est un coup dur. Sonia travaille au café Bastet.
C'est vraiment embêtant parce que je suis étudiante. C'était mon dernier mois de travail dans ce café avant de commencer les cours. Et j'avais vraiment besoin de cet argent. Maintenant, comme ils ferment tout, c'est une situation très compliquée.
Comme de nombreux Israéliens, elle devra passer Rosh Hashanah, Kippour, Soukhot, sans la possibilité de se réunir en famille. Et la grande synagogue de Jérusalem n'accueillera personne pour les célébrations du Nouvel An.
Et à Tel Aviv, une manifestation contre ce reconfinement a rassemblé 400 personnes hier soir. Le coronavirus qui a contaminé plus de 30 millions de personnes dans le monde. Partout, les mesures draconiennes pleuvent. Au Royaume-Uni, interdiction désormais de se rassembler entre différents foyers. Il faut être dur pour sauver Noël, justifie le Premier ministre Boris Johnson.
Le virus qui, par ailleurs, se transmet très vite dans toute l'Europe.
Et c'est même à alarmant pour l'Organisation mondiale de la santé. Chez nous, plus de 10 000 nouveaux cas ont encore été identifiés lors des dernières 24 heures. Pourtant, le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles et dans les crèches. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé hier. Plus question de fermer une classe au moindre cas. Le Haut Conseil de Santé publique estime que les enfants contaminent finalement peu leur entourage. Un argument inaudible pour Rodrigo Arenas, le président de la FCPE, la première fédération de parents d'élèves.
On joue aux apprentis sorciers sans aucune conviction parce qu'il n'y a aucune étude qui dit réellement que les enfants ne sont pas contaminants. Donc on ne peut pas travailler comme ça en prenant ce qui nous intéresse et en faisant semblant que le reste n'existe pas. Donc il faut arrêter ces méthodes-là, c'est pas sérieux. Et nous, vous savez, les parents, ils nous appellent, on est obligé de donner des vraies réponses et pas on va voir ce qui se passe, s'il y a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. C'est pas responsable, surtout que vous avez eu une représentante de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui qui explique très bien que la politique des tests aujourd'hui en France n'est pas efficace et qu'on jette l'argent des contribuables par les fenêtres. Donc c'est très inquiétant de se dire que les mesures qui sont prises, c'est peut-être bien pour l'opinion publique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas efficace. C'est quand même pas la FCPE qui dit que la Covid repart à la hausse de façon exponentielle.
Des propos recueillis par Rémi Vallès. Autre annonce d'Olivier Véran à Lyon et Nice. On se prépare à un durcissement des contraintes sanitaires. Les préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes ont jusqu'à demain pour proposer de nouvelles mesures. À Marseille et en Guadeloupe, ce sont les fermetures de bars et l'interdiction des rassemblements publics qui ne sont plus exclus. Par ailleurs, 20 centres de dépistage vont ouvrir à partir de lundi en Île-de-France pour désengorger les labos. Ils seront réservés de 8h à 14h aux symptomatiques et aux cas contacts.
On termine par un sujet qui nous tient bien évidemment à cœur sur Radio Classique. Les femmes chefs d'orchestre, elles sont encore beaucoup trop peu nombreuses.
Et oui, en France, Bernard, les femmes représentent, vous ne le savez peut-être pas, un tiers des effectifs dans les orchestres, mais à la direction, c'est tout à fait une autre histoire. Seuls 4% des chefs d'orchestre programmés chez nous sont des femmes et ce n'est guère mieux en Europe. Un concours les met à l'honneur. Son nom, Maestra. La finale a lieu ce soir à la Philharmonie de Paris. Elles ne sont plus que 3 en lice, la franco-britannique Stéphanie Childress, la colombienne Lina González-Granados et l'américaine Rebecca Tong. Pardon. Victoire Fort a traîné son micro auprès des candidates.
Avant d'entrer en scène, Gladys Marley-Padel s'accorde avec son soliste. Ils ne parlent pas la même langue, mais communiquer par le geste, par le regard, c'est ça, être chef d'orchestre.
Un jour, à mon cours de violon, j'ai dit à mes camarades, je vais devenir chef d'orchestre et un jour, je vous dirigerai. Tout le monde a ri et me voilà aujourd'hui.
Il leur a fallu une vocation plus forte que les stéréotypes. Lai Jiajing sort tout juste de sa prestation.
J'avais 16 ans et c'est comme si on avait planté une graine dans mon cœur.
Ce concours veut accélérer le tempo. Et briser un plafond de verre trop solide parfois. Emmanuel André, directeur des concerts à la Philharmonie.
Est-ce qu'il y a honnêtement des réticences parmi certains musiciens dans les orchestres à être dirigés par des femmes ?
Oui, ça existe, bien sûr. On entend des blagues, des hésitations ou des doutes. Et c'est très important de parler de ces questions-là.
Parce que diriger, dans l'inconscient collectif, se conjugue au masculin. Stéphanie Childress, chef d'orchestre de 21 ans.
Alors, je voulais faire la 9e de Beethoven. Et beaucoup des musiciens à mon université m'ont dit « Stéphanie, les garçons n'ont pas fait la 9e, alors on ne sait pas si tu seras à la hauteur. »
Elles le sont.
Vous pourrez revivre cette finale donc, qui a lieu ce soir, demain sur notre antenne à 21h finale, rediffusée sur Radio Classique, présentée par Laure Maison. Bernard.
Lucille Bréau présentait le journal de 8h. Elle revient tout à l'heure pour le flash de 9h. Merci beaucoup Lucille. À tout à l'heure, il est 8h08 exactement. Dans 3 minutes, l'édito politique de Guillaume Tabar du Figaro, édito consacré aux ambitions présidentielles de Madame Hidalgo. Et puis, 9 minutes spécial Covid avec l'épidémiologiste de l'INSERM, Laurent Toubiana, à tout de suite.